Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service en ce lundi matin 11 février. Et j'ai retrouvé mon Roger.
Oui, bonjour Diane.
Ça va bien?
Ça va très bien, sauf qu'il fait un peu frais, mais ça c'est l'hiver.
C'est ça, c'est l'hiver. Bien, il annonce une grosse tempête demain.
Oui, c'est ça.
On restera alors, chacun chez soi. Et de quoi vous allez nous parler, Roger, pendant cette première partie?
La première partie de l'émission, je vais vous parler de David Desjardins qui essaie de se mettre à la place de quelqu'un qui fume du pot. Quels sont les effets? Il ne dit pas qu'il l'a fait lui-même, mon père. Ensuite, je vais vous parler du boom des universités chinoises. Mais attention, le régime chinois est toujours communiste.
Oui.
Alors, on contrôle.
Ben, vous parlez de potes, moi, je vais parler d'alcool. On est dans la drogue ce matin.
La drogue.
Et vous parlez... Ben, je vais vous mentionner la première chronique de Normand Baillargeon dans Le Devoir, qui commence à chroniquer sur l'éducation. Alors, c'est dans la revue Le Tour du Québec. Nous nous dirigeons dans le Bas-Saint-Laurent avec un texte signé Philippe Couture, « La douce ivresse des érables jalois ». Dans un village bas-laurentien de moins de 500 âmes, est produit l'un des alcools les plus étonnants de la province à partir de la vinification de la sève d'érable, gros plan sur l'acer, A-C-E-R. C'est l'un des secrets les mieux gardés du JAL, le JAL, me disait l'ami William en me faisant goûter l'acer blanc par un beau jour d'été aux abords du lac Témiscouata. Le JAL, c'est le sympathique nom donné à la zone rurale formée par les villages de Saint-Just, Auclair et Lejeune. Un peu dans l'ombre des villages riverains du Kamouraska et de la plus urbaine Rivière-du-Loup, ces trois villages gagnent en prospérité depuis qu'ils ont résisté à la dévitalisation et accru leur développement local au début des années 70. Le délicieux nectar que me faisait goûter William, un alcool de style vin blanc issu de la fermentation de la sève d'érable, avait donc été fabriqué à Auclair, dans une érablière pas comme les autres, innovante depuis sa fondation en 1972 et peu à peu transformée en atelier de conception de boissons alcoolisées à l'érable. Une chimiste alimentaire s'est jointe à l'équipe pour peaufiner le processus. Le domaine Acer commercialise quatre alcools hors normes et de qualité supérieure, pourtant encore méconnus de la plupart des Québécois. Prémisse d'avril, le fameux Acer blanc, est un alcool de type vin blanc au goût d'érable très délicat, le compagnon idéal des apéros estivaux. La mousse des bois est un Acer effervescent aux bulles fines et aux parfums d'érable également très subtils. Le Val Ambré, vieilli 10 ans en fût de chêne, est plus riche, comme d'ailleurs le Charlemy Robert, de type Porto, qui accompagne à merveille les fromages ou desserts en fin de repas. Il a fallu près de 22 ans de recherche pour arriver au niveau de sophistication des produits actuels, nés des travaux patients de Vallier Robert et de la chimiste Julie Michaud, ainsi que de l'apport de plusieurs œnologues. Pour créer l'acer blanc, on récolte l'eau d'érable avant de la concentrer par osmose et évaporation, mais pas jusqu'au niveau du sirop, précise Nathalie. Puis on fermente dans des cuves en inox avec différentes levures pendant 2 à 4 semaines. Ensuite, on laisse le produit se clarifier et la lie descendre au fond des cuves. L'acer blanc vieillit 18 mois dans ces cuves avant d'être filtré et mis en bouteille. L'acer mousseux, quant à lui, est produit avec la sève du tout début de la saison des sucres. Une fois les premières étapes de fermentation réalisées, il passe par une deuxième fermentation en bouteille, inspirée de la méthode traditionnelle. L'acer doux, après une fermentation en cuve d'une sève demi-saison, est mutée à l'alcool. On lui ajoute ensuite un peu de sirop d'érable avant de le laisser vieillir en fût de chêne pendant 5 à 20 ans. Le Charlemy Robert produit une sève de fin de saison et est vieillie pendant 5 à 20 ans sans ajout de sirop ni d'alcool. Vendu sur place à Auclair où l'on peut aussi visiter l'écomusée, les produits du domaine Acer se trouvent également dans certaines épiceries fines et dans quelques marchés publics, en plus d'apparaître sur la carte de plusieurs restaurants. Ils font également du beurre d'érable et de la gelée à l'érable. Tous leurs produits sont bio. Donc, le domaine Acer Bas-Saint-Laurent, c'est 145 route du Vieux-Moulin, Auclair. Le numéro de téléphone, 418-899-2825. Et vous pouvez aller sur le site, en un mot, domaineacer.com.
Dans l'actualité du mois de février, David Desjardins pose la question, alors le pot ça va? Les rues ne sont pas infestées par les zombies complètement gelés? Les adolescents n'ont pas abandonné l'école en masse pour se consacrer à l'écoute en boucle de l'œuvre de Cheech Chin Chong en adoptant un régime exclusivement composé de Cheetos et de Joe Louis? Bon, alors maintenant que le business
les lieux communs du pot.
Maintenant que le business médiatique et politique de l'hystérie collective recule un peu, permettez que je pose une question. Pourquoi fume-t-on du cannabis? Ce n'est pas une interrogation banale, et elle renvoie à autre chose qu'au plaisir gustatif, comme l'alcool, dont vient de nous parler Diane, puisqu'on peut boire par goût, sans s'enivrer, mais qu'on ne peut évidemment pas fumer sans buzz. Alors pourquoi ce buzz? Et les autres, plus puissants encore, qui projettent l'esprit dans une voie parallèle autrement fascinante? Il y a un débat, un début de réponse dans Trip de l'auteur américain Tao Lin, essai en forme d'écho à son roman Taipei, dans lequel il évoquait ses abus de psychotropes. Trip est un voyage dans l'histoire des drogues psychédéliques et un ouvrage qui expose le degré d'aliénation dans lequel nombre d'entre nous vivons, calmant nos gros nerfs aux anxiolytiques, c'est ça, et nos coups de blues aux antidépresseurs. Comme si de rien n'était. Comme si ces substances n'étaient pas aussi de la drogue. Je vous entends déjà me dire que je mélange les choses, drogue et médicaments, mais suivez-moi une minute, je vous prie. Je pense que ça vaut la peine d'explorer la nature de ces substances qui modifient nos perceptions et altèrent nos consciences. C'est ce que fait Michael Pollan dans « How to Change Your Mind ». L'auteur s'intéresse lui aussi aux psychédéliques comme Lynn et comme Timothy Leary et Aldous Huxley l'avaient fait bien avant eux. Il en fait l'essai et explore avec des scientifiques le potentiel curatif de ces composés. Les recherches se multiplient en ce sens. On administre de l'ecstasy aux dépressifs, du LSD à des patients paralysés par l'anxiété, et les résultats sont si probants qu'on ne peut que se demander si, pour des motifs politiques, on n'a pas interdit des drogues aux vertus pourtant remarquables que des psychiatres employaient autrefois pour leur thérapie. Michael Pollan, pour sa part, a rencontré des cancéreux que l'acide a aidés à faire la paix avec la mort. Il a lui-même constaté que le voyage mental vécu lors d'un buzz en compagnie d'un professionnel de la santé pouvait lui permettre de mieux se comprendre, de nettoyer sa conscience de tout ce qui l'empêchait d'envisager le monde sans le faire passer par le filtre de son ego. Et quel est le rapport avec le cannabis? Sans provoquer de spectaculaires effets hallucinatoires, le pot recèle d'autres possibilités qu'un usage à des fins récréatives, et c'est probablement sa plus grande différence avec l'alcool et la raison pour laquelle la drogue est si mal comprise par celles et ceux qui n'en consomment jamais. Le cannabis altère les sens et la pensée. Il découpe les formes, fait irradier les couleurs, teinte les sons. Il permet de réfléchir autrement, fait naître des idées parfois inouïes, alimente l'imaginaire et pacifie l'esprit. Pas toujours. Pas pour tout le monde non plus. Les drogues psychédéliques ne conviennent surtout pas aux trop jeunes et malléables esprits ni aux personnes souffrant de troubles psychotiques. Ce qui m'intéresse, c'est le désir de milliers de gens de réenchanter leur vie par les psychédéliques, et que ce besoin a sans doute aussi à voir avec la nécessité de renouer avec une idée du mystère, d'un autre sens pour nos vies que celui du travail, famille ou wifi, qui nous est imposé. Est-ce que cela comporte des risques? Évidemment. Est-ce que j'intellectualise une simple évasion du réel? Bien sûr, bien sûr. Mais il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de la drogue, seulement de tenter de comprendre pourquoi tant de gens cherchent à se sauver momentanément de l'affliction du quotidien pour ajouter à leur vie une touche de magie et accéder à un autre niveau de conscience. Il est trop facile de les ranger dans une petite case sur laquelle on a écrit « drogué » pour satisfaire notre morale. La détresse et le réenchantement, c'est l'œuvre de... Non. C'est pas l'œuvre de Gabriel Leroy. C'était le détresse et l'enchantement. C'est David Desjardins qui écrit ce texte dans l'actualité.
Et je riais bien avec Jean-Sébastien parce que lui, ça drouille. C'est le beurre de pinot.
Ça en est une autre.
C'est une vraie drouille.
Tu peux éteindre la lumière. Tu peux danser tant que tu veux. Et finir en poussière, je retiendrai tant que je peux. Tes mains dans l'atmosphère, l'odeur des joints, tous les matins, me fout en l'air. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux toujours me plaire, en tes leçons tant que tu peux. Et jamais me faire taire, je l'écouterai tant que je peux. Ton hymne militaire, ta voix parfois, dès le matin, me fout en l'air.
Formation française Holidays qui nous chantait l'odeur des joints.
Bon, là, on va changer complètement de sujet. Là, on va parler des universités chinoises. C'est un texte qu'on peut lire dans l'actualité du mois de janvier. Isabelle Grégoire l'a signé. Bourse du gouvernement chinois en poche, la Québécoise Nadine Antoun, 26 ans, s'est vite acclimatée à sa vie d'étudiante à l'université Renmin à Pékin. Les étrangers sont bien accueillis, les profs accessibles et les cours en anglais, dit celle qui a passé la dernière session d'hiver à étudier l'administration publique dans la capitale chinoise, dans le cadre de son MBA à l'Université Laval. En 2017, 489 000 étudiants étrangers y ont étudié, dont 3 500 Canadiens. Les grandes universités chinoises sont partenaires d'établissements du monde entier, et les facultés destinées aux étrangers souhaitant apprendre le mandarin se multiplient, de même que les cursus en anglais, voire en français, grâce notamment à des partenariats avec la France. Alors qu'il y a 20 ans à peine, étudier à l'université est un privilège réservé à une élite urbaine. La Chine a investi de façon massive pour accroître la fréquentation. 8 millions d'étudiants en sortiront diplômés en 2018, dont la moitié en sciences et technologies. La Chine mise aussi sur la qualité avec un plan visant à propulser 42 de ses quelque 2500 universités parmi les meilleures au monde d'ici 2050. Certaines figurent déjà dans les grands palmarès internationaux, comme celui du Times Higher Education, D'excellentes conditions matérielles sont offertes pour attirer les chercheurs étrangers et rapatrier les Chinois diplômés à l'extérieur du pays. La performance de ces universités devrait permettre à la Chine de devenir une puissance mondiale de l'innovation, prévoit la banque suisse UBS dans un rapport publié en 2017, mais le pays réalisera-t-il son ambition d'en être également une en éducation? Pas si sûr. Selon de nombreux experts, la stratégie d'emprise sur l'université, réaffirmée lors du 19e congrès du Parti communiste chinois en octobre 2017, n'est pas de bon augure. Plus puissant leader chinois depuis Mao Tse-tung, le président Xi Jinping, 65 ans, a déclaré que les universités doivent être les bastions du Parti communiste chinois. Les professeurs de fervents partisans du régime et les étudiants doivent devenir des patriotes dévoués. Dans la foulée du congrès du Parti communiste chinois, des centres de recherche consacrés à la pensée de Xi Jinping ont ouvert dans des dizaines d'universités, subventions à la clé. Alors, petite pause involontaire. C'est très inquiétant, dit Chi Yu Chiu, doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université chinoise de Hong Kong, région administrative spéciale de la Chine, qui jouit encore d'un système éducatif distinct. Le contrôle est de plus en plus serré en Chine sur ce qui peut être enseigné et discuté sur les campus. Un représentant du parti est présent dans chaque université dont le pouvoir est souvent supérieur à celui du recteur. Rencontré à Hong Kong dans le cadre du prix Yidan, le professeur de psychologie diplômé de l'Université Stanford en Californie, a notamment travaillé à l'Académie chinoise des sciences sociales à Pékin. Il se dit préoccupé par le sort de ses ex-collègues et de l'avenir. La Chine continentale veut former des scientifiques et des technocrates, et non pas des esprits indépendants capables d'apporter un changement de société. Alors, c'est un texte intéressant qu'on peut lire dans l'actualité du mois de janvier, le boom des universités chinoises, mais attention, c'est un peu comme l'ancien régime communiste, je ne sais pas si ça a changé en Russie, là, sous l'Union soviétique, on contrôlait pas mal ce qui se disait et ce qui se faisait dans les universités.
Ce qui s'enseignait, oui.
Oui, ce qui s'enseignait.
Merci, Roger. Alors, la chronique de Normand Baillargeon, cette première chronique, il intitule « Credo pédagogique ». Sous ce titre, John Dewey, D-E-W-E-Y, qui est né en 1859 et mort en 1952, quand même, 93 ans, a publié en 1897 un texte dans lequel il exprimait ses convictions et ses espérances en éducation et disait ce qu'il ambitionnait d'accomplir dans l'école expérimentale qu'il avait fondée. En hommage à celui qui reste un des grands penseurs de l'éducation, toutes époques confondues, et au moment de commencer cette série de chroniques sur l'éducation au devoir, je le lui emprunte aujourd'hui. Je prends ma nouvelle tâche très au sérieux et je considère que c'est, en même temps qu'un honneur, une grande responsabilité. L'éducation est en effet à mes yeux, comme je pense qu'elle l'est pour la plupart d'entre vous, une question d'une importance impossible à minorer et dont on devrait, autant que faire se peut, discuter sans partisanerie. J'abats donc mon jeu. Conviction. Je pense que l'éducation est la formation de l'esprit par l'acquisition de savoirs fondamentaux et qu'elle vise, par elle, la construction de l'autonomie du sujet et la formation du citoyen. Je pense que l'école est un merveilleux moyen de transmettre de l'éducation, mais qu'il n'est pas le seul. Je pense qu'il lui revient aussi, avec sa mission d'éducation qui la distingue, de socialiser et de qualifier. Je pense que des décennies de recherches crédibles en de nombreuses disciplines, philosophie, psychologie, sociologie et d'autres, ont produit en éducation d'importantes données probantes sur une foule de sujets et que ce serait courir un immense péril de les ignorer. La récente réforme de l'éducation nous l'a d'ailleurs encore montré. Je pense néanmoins que ces données cruciales sont insuffisantes à elles seules pour penser l'éducation, et pas seulement parce qu'elles sont parfois incertaines ou aux implications imprécises, c'est que cette lourde tâche suppose aussi l'adoption de valeurs et une vision claire et cohérente de la nature et des fins d'éducation. Je pense que la philosophie joue sur ce plan un rôle qui est irremplaçable. Pardon. Je pense encore que les enseignantes et enseignants remplissent une fonction cruciale dans la construction et l'amélioration de l'édifice social et qu'en somme, pour le dire avec les mots de mon cher Bertrand Russell, ils sont des gardiens de la civilisation. Nous devons avoir envers eux des attentes, des exigences, mais aussi des reconnaissances à cette hauteur. Je pense enfin qu'au Québec, en éducation, nous avons accompli de grands progrès depuis l'historique rapport parent. Mais des défis nombreux, parfois gigantesques et pour certains totalement nouveaux, sont apparus. Pour n'en nommer que quelques-uns, l'état déplorable des infrastructures, la désertion professionnelle, le financement du système et celui de l'école privée, la laïcité, Normand Baillargeon en couvre plusieurs. Et il en passe en plus, c'est un grand paragraphe de nos problèmes dans les écoles. Mais il termine en disant « On en conviendra, voilà de vastes enjeux et d'immenses questions. Que fait le modeste chroniqueur devant tout cela et avec les convictions qui sont les siennes? Ce que cette chronique vous proposera, périodiquement et au fil des publications savantes, je vous tiendrai d'abord au courant de résultats et de recherches pertinents et importants. Ensuite, je partagerai ici des analyses philosophiques de concepts qu'il est crucial de connaître pour se faire une idée la plus claire possible de ce qu'est l'éducation et pour la défendre contre d'autres plausibles interprétations. Je vous raconterai aussi parfois le vécu sur le terrain d'acteurs de l'éducation. Je me livrerai enfin à des analyses de questions d'actualité, le plus souvent armées de ce qui précède. On me permettra de terminer en avouant un espoir secret que je caresse. Je pense en effet, et l'ai souvent écrit, que le Québec est mûr pour une réflexion d'ensemble sur l'éducation, pour ce que j'appelle une commission parent 2.0. J'aimerais que ce que je proposerai ici contribue à rendre crédible cette idée. Voilà, c'était Normand Baillargeon, sa première chronique sur l'éducation dans Le Devoir, credo pédagogique.
I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks. He's coming along.
retour en 1974 avec la formation Supertramp et School. Puisqu'on parlait de pédagogie et d'université, bien parlons d'école dans Gaza.
Oui, on remonte dans le temps. Et voilà, ça met fin à cette première partie de l'émission. Au retour, nous avons des sujets tellement différents de l'éducation et de la drogue. Donc, on vous le fera découvrir après cette courte pause. Alors, mon cher Roger.
Oui, nous revenons et j'aurai à vous parler de... C'est une version du... comment on appelle ça? Simplicité volontaire, on disait dans le temps.
Okay.
Où je vais un texte là-dessus. Là.
C'est à la mode maintenant.
Acheter, oui, c'est ça. Acheter, on peut se poser des questions. Et ensuite, je vais vous parler d'un texte tout de suite, là, d'une bombe dans nos maisons. Le terme est peut-être un peu fort, là, mais vous ferez une idée.
Vous m'intriguez. Et saviez-vous, Roger, que le mot de l'année 2018 du petit Robert était bienveillance? Je suis pas certaine.
2018?
Oui, en 2018, c'était bienveillance, le mot. Voilà, je vais vous en parler. C'est une chronique de Michaël Bergeron. Et je vous fais faire une petite tournée sur la route des Laurentides. Alors, Roger.
Alors, les bombes dans nos maisons, c'est un texte de Maxime Johnson. De quoi s'agit-il? L'Internet des objets, c'est-à-dire des prises électriques intelligentes aux cuisinières commandées par un téléphone, grandit, évidemment, de façon exponentielle. Les risques qui y sont associés aussi. Les estimations varient d'une étude à l'autre, mais environ 15 milliards de ces objets connectés seraient en activité dans le monde, nombre qui pourrait atteindre 25 milliards dès 2021. Ces appareils transforment nos demeures en maisons intelligentes, mais pas seulement. Ils modernisent aussi nos villes avec des feux de circulation qui tournent au vert à l'arrivée d'une ambulance et propulsent les industries vers l'avenir avec des capteurs qui assurent la traçabilité des produits. En plus de ces avantages, l'Internet des objets présente toutefois un risque de sécurité important. Des réseaux d'objets connectés infectés, c'est-à-dire des réseaux zombies, connus sous leur appellation anglaise botnet, font des ravages. En 2016, quelque 600 000 objets connectés infectés par le logiciel Mirai ont été employés pour paralyser des sites comme Netflix, Amazon et PayPal.
Ou notre frigidaire?
Oui. Attendez, ça s'en vient. Ces réseaux sont également utilisés pour créer de fausses interactions sur les médias sociaux. Un réseau zombie qui sévit sur Instagram semble anodin, mais de telles attaques doivent être prises au sérieux quand elles surviennent dans un contexte comme celui de l'ingérence russe lors des élections américaines de 2016. Déjà, 40% des électroménagers intelligents auraient été infectés par des logiciels malveillants, selon l'entreprise américaine de recherche Gartner. Dans une étude publiée par l'Université de Princeton aux États-Unis en 2018, des chercheurs démontrent que des cybercriminels pourraient attaquer des objets à forte consommation énergétique comme des réfrigérateurs pour surcharger les réseaux électriques et plonger des régions entières dans le noir. Les bombes de la prochaine guerre n'auront pas besoin d'être lancées, elles sont déjà dans nos maisons. Ça, c'est Maxime Johnson qui le dit. Les mesures à prendre pour sécuriser le mieux possible l'Internet des objets sont connues, mais les gouvernements commencent à peine à s'activer devant ces dangers. Le Royaume-Uni a publié un code de bonne conduite pour les fabricants, les incitant à doter leurs appareils de mots de passe uniques et à les mettre à jour pendant toute la vie active des appareils. Malheureusement, rien ne les force à adopter ces recommandations, par ailleurs. Une loi californienne qui entrera en vigueur en 2020 obligera les fabricants d'objets connectés à suivre certaines règles de sécurité informatique, mais la réglementation manque de tonus, se contentant d'exiger des mesures raisonnables, sans plus de précision. Il faudrait plus que des mesures volontaires pour faire bouger les choses. Les entreprises doivent suivre des règles strictes pour assurer la sécurité générale à long terme de leurs produits. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même avec la sécurité informatique. Le Canada joue un rôle mineur dans cette industrie. Une loi pour encadrer la fabrication locale d'objets connectés aurait donc un effet limité sur l'écosystème mondial. Pour vraiment changer les choses, Ottawa pourrait toutefois faire figure de leader en rassemblant les autres pays autour d'une réglementation internationale, avec des milliards d'objets connectés mis en service tous les ans. Le plus tôt sera le mieux. Et le chiffre est quand même astronomique. Hein? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? 600 000 objets connectés sont infectés par le logiciel et il y aura 25 milliards de ces objets dans nos maisons en 2021. 25 milliards! C'est bizarre, j'en ai pas chez moi.
Moi non plus. Mais il va falloir écouter France Gall qui disait « débranche tout Alors, une chronique dans la revue Voir, elle est signée Michaël Bergeron. Il se pose la même question que moi sur le mot « bienveillance ». Il dit « Je dois bien admettre que je n'aurais pas pensé à ce mot pour résumer l'année qui vient de se terminer. » C'est à se demander si les gens ont choisi un mot qui a réellement résumé la dernière année ou si c'était un souhait pour 2019. Un peu partout dans le monde, des partis se font élire avec des politiques discriminatoires ou en surfant sur des frustrations et les peurs. Des gouvernements adoptent des politiques qui vont à l'opposé de la bienveillance, des lois ou des programmes qui ne sont pas favorables envers autrui. Bien avant les Gilets jaunes en France, on a vu plusieurs mouvements s'organiser, comme les Indignés, Occupy Wall Street, le Printemps arabe, Idle No More, Black Lives Matter, et même, dans une certaine mesure, le Printemps érable. À tout ça, j'ajouterai aussi Agression non dénoncée et MeToo, les débats autour de l'appropriation culturelle et la montée de groupes anti-immigration comme la Meute. Peu importe la lunette avec laquelle on regarde ces manifestations, et même si les revendications ne se rejoignent pas toujours ou sont parfois incompatibles, c'est l'indignation qui les alimente. Une indignation devant le manque de bienveillance des gouvernements et des élites. Il y a une colère qui est de moins en moins sourde et qui semble toucher presque tous les milieux sociaux et culturels. Cette colère, elle se ressent sur les réseaux sociaux aussi. Elle se voit dans les folies du Black Friday. Elle se dévoile dans un individualisme qui augmente. On se replie quand on se sent attaqué et on éclate quand on se sent sous pression. Quand personne ne nous écoute, quand l'autorité nous méprise, quand nos peurs sont ridiculisées, l'envie de crier est compréhensible. Bien des gens qui ont un pouvoir social, politique ou économique tentent de faire croire que les solutions sont individuelles plutôt que collectives. Tous les impacts des changements climatiques ne pourront être absorbés par des gestes individuels, il faudra une réponse sociale. La majorité des gens ne changeront pas leurs habitudes si cela signifie être à contre-courant de la société. La pauvreté ne disparaîtra jamais avec la charité, mais plutôt par des gestes politiques. Le salaire minimum ne permet pas de sortir de la pauvreté, mais on dit aux gens que c'est de leur faute s'ils ont de la misère à payer leurs factures. Le racisme, le sexisme, le colonialisme, tout ça repose sur des obstacles sociaux et non sur un manque d'initiative personnelle. Pour une personne qui passe à travers l'étau, combien restent coincés malgré leurs efforts? Je ne me questionne pas tant sur les raisons qui incitent les Françaises ou Français à bloquer des carrefours giratoires, sur la peur du voile par des gens qui cherchent leur place, la colère des femmes devant la culture du viol ou le cynisme des personnes en situation de pauvreté, mais plutôt sur la façon dont les gouvernements répondent à ces frustrations ou tendent, ou non, l'oreille. Comment transformer cette colère en bienveillance? Comment puiser dans cette colère pour transformer notre société? La source de ces colères est dans notre façon de vivre, dans nos choix politiques. Les réponses politiques des dernières années sont aussi efficaces que l'étaient les saignées au Moyen Âge. La première saignée n'a pas marché? On va en faire une autre! Les rares fois qu'une personne allait mieux après révélaient bien plus du hasard que du traitement médical. Toutes ces colères ne sont pas le fruit de crises individuelles, elles sont les reflets d'une crise sociale. La bienveillance ne résume peut-être pas 2018, mais elle est peut-être l'une des réponses à tout ce que l'on a vu l'année dernière. Voilà, c'était une chronique de Michaël Bergeron publiée dans Le Voir du mois de janvier 2019, « Bienveillance et frustration ».
Si j'avais un char, ça changerait ma vie. Si j'avais un char,
si j'avais un char,
j'en ferais ma maison.
C'était le branle-bas de combat en studio. Tout le monde se demandait, mais qui donc est l'interprète de Si j'avais un char? Ce n'est pas Stephen Faulkner. Ce n'est pas la version originale. Eh bien, c'était Antoine Gratton qui reprenait cette grande pièce.
Ben,
ce morceau de culture québécoise.
Je reconnais la voix. Alors, Roger, on reprend la phrase. En as-tu vraiment besoin? Je pense qu'il va falloir qu'elle fasse breveter cette phrase, notre comptable.
C'est ça.
C'est connu,
c'est ça,
mais en a-t-on vraiment besoin?
Alors, c'est ça. C'est une question posée un peu différemment. Oui. Acheter, point d'interrogation, oui, mais... Oui.
Voilà.
C'est Vanessa Farquharson qui écrit ce texte dans la sélection du Reader's Digest. Et elle dit ceci, que ce soit en raison d'un changement de situation financière ou du désir d'adopter un mode de vie plus autosuffisant, de nombreux Canadiens tentent d'acheter moins ou ils sont contraints. Mais ce n'est pas forcément un sacrifice. On peut d'ailleurs faciliter cette transition. Et là, elle donne trois moyens de le faire. On peut emprunter ou échanger au lieu de dépenser, d'acheter. On peut réparer ce qui est cassé, ce qui est une excellente solution, si ça se répare.
Parce que... Oui, bon. Mais il y en a qui sont experts.
Et ensuite, la troisième possibilité, c'est s'épanouir dans le minimalisme. Ça, c'est vertueux, pas mal. Emprunter au lieu de dépenser. Vivre confortablement dans n'importe quelle grande ville est devenu un défi, surtout pour les personnes de moins de 30 ans qui, ces dernières années, ont lancé des plateformes numériques facilitant les économies. Les milléniaux ont été les premiers à adopter cette économie de partage émergente, que ce soit au moyen d'une application permettant de diviser une course en taxi ou d'un site Internet qui favorise l'échange. Et les générations plus âgées les rejoignent de plus en plus. L'un des sites canadiens les plus populaires, qui s'appelle Bunz, B-U-N-Z, a été créé en 2013 par Emily Bitz pour encourager les Torontois à troquer biens et services. Emily y expliquait, par exemple, qu'elle disposait d'un mélangeur qu'elle n'utilisait pas et proposait de l'échanger contre quelques plantes d'intérieur. L'application Bunz compte aujourd'hui plus de 200 000 utilisateurs et dépasse les frontières de l'Ontario. Cette croissance, Sacha Mojta-Eddy, PDG de l'entreprise, l'attribue à la simple nécessité. Vous avez beaucoup d'objets, mais peu d'argent. Comment obtenir ce dont vous avez besoin avec ce que vous possédez, mais n'utilisez pas? Si vous ne parvenez pas à trouver avec qui faire du troc, emprunter est souvent mieux qu'acheter, et une rapide recherche sur Internet vous aidera à trouver où louer toutes sortes de choses, des outils de rénovation, au ski de fond. Réparer ce qui est cassé maintenant. À notre époque, presque tout peut s'acheter en un clic. Remplacer ce qui est cassé devient donc un automatisme. Mais il fut une époque où on achetait appareils ménagers, vêtements, appareils électroniques, dans l'idée que, moyennant des réparations occasionnelles, ils dureraient toute une vie. Aujourd'hui, certains consommateurs consciencieux prennent les choses en main et rejoignent le mouvement florissant des « Repair Cafés ». Fondée à Amsterdam, il y en a à Montréal aussi. Fondée à Amsterdam en 2009 par la journaliste Martine Postma, l'organisme à but non lucratif s'est implanté dans plus de 1500 autres endroits à travers le monde. Au cours de séances ponctuelles organisées par des bénévoles, on y apprend à réparer toutes sortes d'objets, de l'ourlet défait à l'ordinateur portable qui ne réagit plus. Il existe des Repair Cafés dans la plupart des villes du Québec, mais si vous n'en trouvez pas près de chez vous, il est facile d'en lancer un. RepairCafé.org propose un manuel de départ. Et finalement, pour les vertueux, s'épanouir dans le minimalisme. La meilleure façon d'échapper à cette logique du gaspillage, c'est de nous retenir d'acheter dès le départ. Nous possédons souvent plus que nécessaire, affirme Marina Ramalho, première consultante canadienne formée à la méthode de désencombrement KonMari, popularisée par le livre de Marie Kondo, « La magie du rangement ». Cela peut engendrer beaucoup d'anxiété. Prenez à penser à tout ce qui est entassé au fond de votre penderie. Possédez-vous des choses, ces choses ou ces choses vous possèdent-elles? Marina conseille de s'entraîner à faire des achats réfléchis et non impulsifs. L'une de ses astuces consiste à s'interroger avant de passer à la caisse ou de cliquer sur « Acheter maintenant ». L'achèterai-je au prix fort? Ce chemisier, va-t-il avec toute ma garde-robe? En ai-je besoin immédiatement ou puis-je laisser passer une nuit pour y réfléchir? Elle recommande également d'écrire le nom de l'objet ou de le mettre en signet dans l'ordinateur et d'y revenir une semaine plus tard pour réévaluer le désir. Des petits trucs, hein? C'est, bon, c'est une bonne idée quand même. S'épanouir dans le minimalisme.
Pour faire suite, Roger, je vais prendre quelques secondes parce que je suis membre d'une coopérative de solidarité. Ça s'appelle La Remise.
Oui.
C'est un site web, laremise.ca, et c'est un organisme à but non lucratif qui a les outils de cuisine, menuiserie, mécanique, jardinage, électricité, qui sont sous forme de prêt, comme une bibliothèque.
Oh oui.
On va emprunter la scie ronde, la scie à chaîne ou l'outil de jardinage ou la brouette. Et il y a aussi un espace de travail doté d'outils spécialisés. Puis il y a des cours, des formations et des ateliers. C'est la remise. Ça fait quelques années, 4-5 ans que ça existe à Montréal.
C'est un prêt pur et simple.
C'est un prêt pur et simple, comme une
bibliothèque.
On ne dépose
pas quelque chose en échange
non,
chez vous. Là,
non, on loue l'outil, puis on le rapporte. On le prête, il nous prête, puis on le rapporte après.
C'est bon.
Oui. Alors, je vous amène sur la route des Laurentides. C'est le journal de bord dans la revue Tour du Québec. Premièrement, le lac Masson est en fête. Pendant le mois le plus court de l'année, une chance, c'est le plus froid, Sainte-Marguerite du lac Masson se met sur son 36 et propose une tonne d'activités extérieures autour du lac Masson et du parc Édouard Masson. Du 2 au 24 février, tous les week-ends, si vous êtes dans le coin, c'est pas mal un must puisqu'on peut y passer une journée complète à s'enivrer de la beauté de la nature laurentienne. Bien sûr, la famille est invitée à profiter des jeux, des glissades, de la raquette, du patinage sur l'une des plus belles et grandes patinoires au Québec, un trajet de quelques kilomètres. Quand on a fini de bouger, on peut se réchauffer autour du foyer extérieur ou prendre une boisson chaude ou encore faire maquiller les enfants. Ensuite, vous voulez demeurer, rester dans les Laurentides et profiter de cette belle journée que vous aurez eue au lac Masson, bien, vous allez à Valmorin. Vous pouvez aller coucher au couvent Valmorin, c'est sur le chemin de la gare. Pendant 60 ans, cet établissement était l'hôte de la congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. À la suite de son acquisition par la Fondation Vivacité de Frédéric Drouin, le lieu devient en 2015 un emplacement clé de retraite de bien-être dans les Laurentides. Le couvent Valmorin est facilement accessible en raison de sa proximité à la route 117. L'accès au lac Raymond et aux nombreuses stations de ski avoisinantes font en sorte que la santé peut se conjuguer au sport et au plein air le temps d'un week-end. Le couvent est réservé aux groupes pour des séjours à court terme. Familles et amis sont les bienvenus, tout comme les groupes d'affaires. À l'intérieur, les décors sont épurés et chaleureux. Et à l'extérieur, c'est un joli boisé. Et pour ceux qui... Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, c'est à Saint-Sauveur, c'est la fameuse boulangerie Pagé, dont on retrouve les tartes et les gâteaux, même dans les petites épiceries de Montréal. Arrêt incontournable des habitants ou des visiteurs des Laurentides, la boulangerie Pagé est située à quelques pas de l'église à la place du patrimoine à Saint-Sauveur. La boulangerie est bien entourée, une poissonnerie et un café, entre autres, se trouvent dans le même bâtiment. La boulangerie Pagé appartient aujourd'hui au moulin Lafayette, qui prône un savoir-faire artisanal. Évidemment, les pains sont de mise et les variétés alléchantes. En outre, il faut absolument essayer une fois dans sa vie les tartes et les quiches au goût riche qui y sont proposées. Et puis, dans les frigos et congélos, vous trouverez plusieurs produits pour nourrir la famille, les amis et les voisins. Et je termine avec un incontournable à Mirabel, c'est Intermiel qui existe depuis au moins une trentaine d'années. Et 40 ans, établi dans la région des Basses-Laurentides, Intermiel est la destination idéale pour faire découvrir aux petits comme aux grands le monde de l'apiculture. L'éducation est importante chez Intermiel, l'entreprise familiale fondée par Viviane et Christian Macle et dont la relève est maintenant assurée par leur fille Éléonore, accueille des milliers d'élèves par année afin de mieux faire comprendre le travail des abeilles. Intermiel a 8500 ruches en production et une érablière et un verger. Dans la boutique, ouverte tous les jours à l'année, on retrouve toute une gamme de miel et d'alcool, testée et approuvée par non le moindre le chef Martin Picard, qui utilise ses produits à la cabane à sucre au pied de cochon. Voilà, c'était une petite tournée sur la route des Laurentides.
Dans le train pour Sainte-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer, mais allait d'en débarquer. Quand le train file 50 000 à l'heure, et qu'en plus vous êtes conducteur, oh, dans le train pour Sainte-Adèle, il n'y avait rien qu'un passager. C'était encore le conducteur. Imaginez que pour voyager, si c'est pas la vraie petite douleur, oh, le train du Nord, tchou, 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 le train du Nord. Au bord des lacs, des petites maisons, ça vire en rond. Le train du Nord, c'est comme la mort, quand il n'y a personne à bord. Oh, le train pour Sainte-Adèle. En montant la côte infidèle, le conducteur et puis le chauffeur sont décidés à débarquer. Il traîne tout seul à continuer. Oh, le train pour Sainte-Adèle. Et rendu dans le bout de mon laurier, personne n'a pu l'arrêter. Paraîtrait qu'on l'a vu filer dans le firmament la nuit passée. Oh, le train du Nord, tchou, 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 le train du Nord. A perdu le Nord, rendu l'autre bord. Le train du Nord a perdu le Nord, et c'est pas moi qui va le blâmer, non, non, non.
Tant qu'à parler des Laurentides, eh bien, prenons le train du Nord. Félix Leclerc, pièce qui a 55 ans cette année.
Merci, Jean-Sébastien. Sur la route, on parle de Nord. Vous savez qu'au lac Saint-Jean, il y a la traversée. En été. On peut le traverser l'hiver. Les autres traversées au lac Saint-Jean. Au début, l'opportunité de traverser le lac en fat bike. Maintenant, on peut le faire à la course, en ski de fond, en raquette ou en ski cerf-volant. Deux traversées du lac en ski de fond se feront en février dans le cadre du Défi des deux Mario, une activité de financement de la Fondation Sur la pointe des pieds, un organisme qui réalise des aventures thérapeutiques pour les jeunes atteints du cancer. Le 23 février, la Fondation organise un autre événement unique au monde lors de la traversée nocturne du lac à la course, sur une distance de 32 km de Péribonka à Roberval. Finalement, une expédition découverte est organisée par le club de Kite Ski Domaine du Roi au début du mois d'avril pour permettre aux adeptes débutants et intermédiaires de voyager en ski cerf-volant. Mais en avril, il n'y a pas dégelé. En ski cerf-volant sur les glaces du lac Mythique. Non, c'est vrai, ça a dégelé en mai.
Pas avant le mois de juillet.
Oui, c'est vrai.
Bon. Une messe interminable. Une église de La Haye aux Pays-Bas tient une messe en continu depuis le 26 octobre dernier afin de protéger une famille arménienne menacée d'exportation qui y a trouvé refuge. Selon la loi néerlandaise, la police ne peut entrer dans une église pendant un service religieux. L'église protestante Bethel a donc organisé une messe par relais, accueillant prêtres et fidèles jour et nuit. Au moment de mettre sous presse, le service se poursuivait toujours. Je ne sais pas si ça se poursuit.
Est-ce que vous savez qu'il est possible de dormir avec les loups? C'est à Gérardville, au lac Saint-Jean. Passer la nuit entouré de 40 loups peut paraître une aventure terrifiante, mais au parc Maïkan à Gérardville, la présence de loups en semi-liberté offre une occasion unique de vivre au rythme de ce canidé qui nous effraie et nous passionne. C'est Gilles Grana, le propriétaire d'Aventureid, un Marseillais d'origine, qui a eu l'idée d'ouvrir un parc à loups il y a 15 ans. Aujourd'hui, on y retrouve 40 loups répartis dans trois enclos de 2,5 hectares. À peine quelques centaines de personnes visitent le parc situé dans le nord du lac Saint-Jean chaque année. Et pour y vivre une aventure immersive, l'entrepreneur a construit des écolodges pour y passer la nuit, question de mieux s'imprégner de leur présence. Il est possible de faire des visites du parc en parcourant les sentiers qui encerclent les trois enclos de loups. Pour ceux qui veulent pousser l'aventure plus loin, Aventureid offre également des expéditions en traîneau à chien de plusieurs jours à partir de la base de Gérardville.
Bon, ça brille quand même. Le règne du char n'est pas fini. Malgré la croissance de l'autopartage à Montréal, le nombre de véhicules de promenade, notamment les VUS, gourmands en essence et donc plus polluants, y croît constamment depuis 10 ans. 12 % de plus qu'en 2008, alors que la population, elle, a augmenté de 8,6 %. La seule bonne nouvelle est que le nombre de voitures électriques y est maintenant 8 fois plus élevé qu'en 2014. Valérie Plante, qui se veut la mairesse de la mobilité, n'a pas fini de lutter contre le CO2 émanant du trafic routier dans sa ville.
Bien, voilà. Merci, Roger. Moi, pour ma part, vous prenez votre véhicule pour retourner à la maison.
Il le faut.
Moi, c'est ma BMW.
Ah, c'est ça.
Boss Metro Walk. Mais ça fonctionne très bien, surtout quand je sais que demain, je dois aller travailler dans la tempête de neige. Qu'on annonce, mais on ne sait jamais. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là.
Ah, c'est un véhicule extraordinaire.
Oui, il faut attendre. Ben, merci beaucoup. Merci, Roger, pour cette émission. Merci, Jean-Sébastien, à la régie. Nous vous revenons la semaine prochaine.
Tout à fait.